Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une enquête sur un phénomène qui est en train de transformer le modèle agricole français. Je veux parler de la financiarisation de la terre. De plus en plus de fermes sont en effet transformées en sociétés, rachetées par des spéculateurs au nez et à la barbe de l'État. Cette révolution en marche, vous allez nous l'expliquer, nous la décrire. Philippe Reltien, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Alain Juillet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste du renseignement et vos propos détonnent. Vous considérez qu'il faut rester très prudent après l'attaque au gaz sarin qui a eu lieu en Syrie le 4 avril dernier.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Qui est donc l'acheteur du domaine Bonneau du Martrait et de son célèbre Corton Charlemagne? C'est donc un nouvel emblème du vin français qui se retrouve aujourd'hui aux mains d'un investisseur étranger. Le château de Gevrey-Chambertin, par exemple, a été vendu en 2012. Le château de Pommard, il y a 2 ans.
Voilà, c'est un extrait d'un reportage de BFM TV qui montre bien que de grands vignobles français sont rachetés par de riches étrangers, ce qui en soi n'est pas vraiment nouveau. Mais le problème, c'est que ces rachats, parfois à prix d'or, aboutissent au remplacement des fermes par des sociétés qui, on va le voir, deviennent des objets de spéculation. Alors on va vous expliquer tout ça, mais pour bien comprendre ce qui est en jeu, Philippe Reltien, peut-être le mieux, c'est de nous raconter plus précisément ce qui s'est produit en Bourgogne.
Oui, il y a eu en effet, en janvier 2016, une vente hallucinante à Pernant-Vergelès en Côte d'Or. Stanley Kroenke, l'actuel président du club de football Arsenal, toujours entraîné par Arsène Wenger,
le club anglais,
a racheté le domaine Bonneau du Martrait, qui était la propriété depuis 200 ans de la famille Lebeau de la Morinière. L'homme d'affaires américain a proposé un prix tellement élevé que cela a provoqué la stupeur de vignerons voisins de Pommard, comme Aubert Lefasse du domaine Lejeune, qui tire aujourd'hui la sonnette d'alarme.
Ce type-là est un passionné, il se paye une danseuse à 100 millions ou à 200 millions. Les chiffres sont tellement énormes que c'est totalement décalé si on valorise ça à 10, 12, 15 millions d'euros l'hectare. Mais c'est impossible, c'est purement spéculatif.
Oui, non seulement c'est purement spéculatif, Philippe, mais surtout, c'est pas un cas isolé puisqu'on trouve d'autres exemples de ventes de ce type.
Oui, et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un Américain. Vous savez qu'en Bourgogne, on calcule les surfaces en ouvrées. Une ouvrée, c'est ce que pouvait labourer un moine en un jour.
Je suis pas sûr qu'on le savait, mais on le saura en tout cas maintenant.
Eh bien, de riches étrangers se sont payés une ouvrée de Chambolle-Musigny pour le prix d'un hectare de champagne. Comme nous le raconte ici Bernard Martenot, qui est propriétaire exploitant à Saint-Romain.
Une ouvrée de vigne a atteint la somme fabuleuse de 1 300 000 euros. C'est des Chinois qui ont acheté ça avec une somme d'argent. Ils ont posé ça sur la table parce que c'était les seuls morceaux qui restaient là, qui traînaient. Ce qui ferait, on a fait un petit calcul de rentabilité. Il faudrait arriver à vendre la bouteille 1 000 euros pour une rentabilité sur 15 ans. Ce qui fait que c'est des bouteilles que nous, les Français moyens, ne verrons plus, on ne pourrons même plus les déguster. Et ça m'inquiète.
Ça l'inquiète parce qu'il ne pourra plus se payer une bouteille. Mais cette explosion des prix de la terre, Philippe, elle ne concerne pas que la Bourgogne, ni que le vin. Vous en avez trouvé d'autres illustrations dans d'autres régions.
Oui, c'est également le cas, dans une moindre mesure, dans cet élevage du Calvados, où je suis arrivé le jour même de la vente. La bétaillère se gare et Jean-Claude Feugère, 70 ans, dit adieu à ses vaches. Deux jeunes agriculteurs céréaliers du département voisin de l'Eure lui ont en effet proposé le double de ce que valait son terrain. 1 200 000 euros pour 85 hectares. Et Jean-Claude Feugère estime que finalement, dans l'opération, les acheteurs, comme le vendeur, sont gagnants.
Eux, ils sont contents par rapport à ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs d'où ils viennent, parce que c'est le double pour eux.
Dans l'Eure, c'est le double.
Là où ils sont, dans leur milieu, c'est le double. Et puis, ils ne peuvent même pas y accéder. Dans les zones céréalières où il y a du haut potentiel, c'est une bataille effrénée. Dès lors qu'il y a une parcelle ou une petite exploitation, il y a 30 candidats, oui.
Des sociétaires
Des sociétaires, oui, mais des grosses structures qui ont des potentiels importants.
C'est la fin de l'exploitation familiale.
Ah ben oui, c'est une autre orientation maintenant. C'est un autre modèle d'exploitation maintenant, une autre agriculture.
Mais si un Indien était venu vous voir en vous disant ben « Tiens, cette terre m'intéresse, j'aimerais te la racheter », vous auriez dit oui.
Ah oui, assurément. Regardez, on a conquis les navigateurs d'autres mondes, etc. Aujourd'hui, c'est d'autres qui viennent nous conquérir, mais on est sur la terre, c'est une mutation régulière.
Ouais, du bon sens, comme on dit pour lui, donc tout ça est normal. Sauf que ces prix à la hausse, Philippe, bah, ils posent quand même un problème, hein, parce qu'ils ont des répercussions sur tous les agriculteurs qui se trouvent à proximité.
Oui, parce qu'à Bercy, on manie la règle à calcul fiscal sans distinction. Et pour François Mauss, expert en grand vin qui s'exprime sur son blog mabule.com, une vente de ce type a effectivement des conséquences très rapides.
Immédiatement, le fisc français va considérer que les terres de ce niveau valent cette somme. Et donc, du coup, toutes les autres propriétés qui cultivent sur le même terroir, boum, du jour au lendemain, vont se voir bombardées avec une valeur de leur terre qui explose complètement. C'est affolant pour les familles où il y a plusieurs enfants, plusieurs héritiers qu'il va falloir traiter.
Oui, affolant parce que ces héritiers, eh bien, ils n'ont tout simplement plus les moyens de payer les droits de succession qui accompagnent un héritage.
Oui, parce que contrairement à ce qui se passe en Allemagne, où on taxe l'héritier seulement pour 10% de la valeur de l'acquisition, en France, l'impôt de succession, lui, grimpe en fonction des prix de vente les plus élevés. Les premières victimes sont donc les héritiers, fait remarquer Aubert Lefasse, président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne.
J'ai l'exemple d'un jeune sur la colline de Corton qui est endetté pour 20 ans pour pouvoir payer les droits de succession d'un oncle dont il a hérité en ligne indirecte. Et ce brave gars, clairement, il fait un très grand vin, mais encore faut-il qu'il soit capable de valoriser le Corton qu'il va produire pendant 20 ans pour rembourser des droits, mais absolument considérables. Si économiquement il fait une, deux, trois récoltes qui sont mal foutues parce qu'on a gelé, parce qu'on a grêlé et c'est arrivé, eh ben vous faites trois récoltes de suite avec ces aléas, vous n'êtes plus capable de rembourser.
Oui, alors ça, c'est une première conséquence de ces rachats astronomiques. Mais il y en a une deuxième qu'on observe aussi d'ailleurs en Bourgogne, c'est que du coup, les écarts se creusent et deviennent même délirants entre les vins d'une même région.
Oui, en effet, les terres de Grand Cru ont pris artificiellement en 4 ans plus de 25%. De 4 millions d'euros l'hectare en 2013, on est passé à 5,5 millions d'euros en 2016. Et du coup, les petits vignerons comme Manuel Olivier en Nuits-Saint-Georges estiment que la hiérarchie des vins de Bourgogne n'a plus aucun sens.
Avant, on pouvait dire que entre un très grand vin bourguignon et un vin d'appellation régionale, on pouvait avoir un facteur d'environ 2. Aujourd'hui, ça peut être un facteur 50 sans problème. Et le message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument revenir à une notion de rentabilité et de transmission et non pas partir dans des systèmes de bulles spéculatives ou financières qui nous emmènera forcément hors de nos valeurs paysannes.
Des bulles spéculatives ou financières, les mots sont lâchés. Alors justement, Philippe, voyons maintenant de quoi on parle. Comment est-ce qu'on peut en arriver à créer ce type de bulle auquel il fait référence ?
Pour bien comprendre ce qui est en cause ici, il faut d'abord revenir sur comment ça se passait avant. Avant, les enfants héritaient de la terre à titre gratuit et l'un d'eux reprenait l'exploitation des parents. Mais il a fallu trouver des astuces pour qu'aucun des enfants ne soit lésé. C'est ainsi qu'on a mis en place les premières sociétés foncières agricoles qui avaient d'abord pour but de mieux régler les successions, explique encore Aubert Lefasse.
Vous avez trois enfants, comment est-ce que vous partagez ? Vous conservez, vous mettez tout ça en société. Vous avez un tiers pour chacun des enfants, des parts de société. L'un en est le gérant exploitant et les deux autres vont toucher une part des revenus liés à l'exploitation. Mais très vite, ces associés dormants, quand eux-mêmes feront leur propre succession à la génération suivante, vont se sentir très loin des réalités de l'exploitation. Donc, on va progressivement séparer et isoler le foncier, les terres, dans une structure dont on dit qu'elle est foncière. Et donc l'exploitant se trouve dessaisi de la propriété dans un système de partage, finalement pour limiter les risques des autres associés.
Oui, c'est ainsi donc qu'on a inventé ce système de société. Et peu à peu, donc, ces sociétés se sont multipliées.
Et surtout, elles ont ensuite échappé aux paysans, qui progressivement ont été remplacés par des entrepreneurs, des banques ou même des sociétés d'assurance qui ont racheté ou revendu ces parts de société. On assiste alors au début d'une mutation qui s'amplifie maintenant, comme le constate Emmanuel Hiest, le président de la SAFER, l'organe de régulation du foncier agricole.
Les personnes morales sont en pleine augmentation, donc les sociétés, et on est arrivé en 2015 à ce que 13% du marché soit détenu par des personnes morales. Donc c'est plus quelque chose de marginal. 13% en surface, 26% en volume financier. C'est-à-dire qu'en clair, les gens qui acquièrent aujourd'hui sous forme de parts sociales, de financiarisation, sont prêts à mettre le double de ce que ça vaudrait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui sont en place, qui sont des gens compétents, se rendent compte que la financiarisation et l'apport de capitaux extérieurs est en train de complètement bouleverser leur métier et de faire que ces gens qui sont là depuis des générations ne pourront plus l'être demain.
Oui, non seulement ils ne pourront plus l'être, Philippe, mais c'est une mutation plus globale à laquelle on assiste parce que qui dit financiarisation de l'agriculture dit aussi changement de modèle, donc des exploitations plus grosses et plus de rentabilité.
Oui, c'est ça le principe. On assiste à des regroupements d'exploitations et à la disparition des fermiers qui sont peu à peu remplacés par des salariés agricoles. En moins de 10 ans, on est déjà passé de 700 000 exploitations à seulement 400 000 aujourd'hui. Et dans les 5 ans qui viennent, ce sont 100 000 autres fermes qui pourraient encore disparaître.
Oui, ces nouvelles exploitations, beaucoup plus grosses donc, elles sont aussi de plus en plus industrielles.
Oui, et l'illustration la plus emblématique de cette évolution, c'est la ferme des 1000 vaches, qui en fait n'en a que 800 près d'Amiens.
Ce qui est déjà pas mal.
Eh oui, une sorte d'usine à lait, avec juste une entrée pour les camions et des robots pour la traite. Cette ferme ultra-moderne, Dominique Henry, agricultrice à la retraite dans le Haut-Doubs et militante de la Confédération paysanne, a cherché à la saboter parce qu'elle ne se résigne pas à ce nouveau type d'élevage.
On voit des vaches qui défilent sur une chaîne et avec chaque ouvrier à son poste, un qui nettoie les mamelles, un qui pose les griffes, un qui met la crème et voilà. Et donc en fait, ils bougent pas, les ouvriers, ils ont les bras en l'air tout le temps et les vaches défilent et il n'y a pas un bruit. Enfin, c'est plus des animaux, c'est des robots pour moi, voilà. Et donc en fait, elles ne vont jamais à l'herbe, effectivement. Elles tournent dans cette usine à vaches 24 heures sur 24, elles viennent se faire traire 3 fois par jour, elles mangent que de l'ensilage et du foin. Et elle ne voit jamais la lumière du jour. C'est une catastrophe.
Oui, une catastrophe pour Dominique Henry, mais cette nouvelle agriculture, elle a d'autres conséquences.
Oui, elle influe aussi sur la qualité des produits. L'éleveur qui s'en va, Jean-Claude Feugère, par exemple, lui est nostalgique d'un camembert qui aujourd'hui n'existe plus.
Et ce qui m'a fait mal, c'est, j'ai vécu ça sur le terrain, c'était les usines Lanctôt. Camembert Lanctôt devait connaître. Quand Lactalis est arrivé, il m'a dit maintenant, les camemberts, ça ne sera plus les mêmes. Parce que les camemberts Lanctôt, sanitairement, on ne peut pas les vendre sur le marché. Tandis que nous, Lactalis, on est arrivé ici pour faire des camemberts qui vont se vendre dans toutes les parties du monde si nécessaire. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à manger un camembert Lanctôt, c'est un camembert neutre. Il n'a plus de caractère. Et avant, on avait un produit de caractère.
Voilà, toute la nouvelle agriculture est résumée là. Si l'on accepte les grands vins, la norme devient plus de productivité et des produits de plus en plus standardisés.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que peu à peu, un système de société et de parts remplace l'ancien modèle du fermier exploitant, que ces sociétés sont rachetées par toutes sortes d'investisseurs et que le modèle s'industrialise. Mais ce qu'on constate aussi, Philippe, c'est que parfois, investisseur, ça rime avec prédateur. Et pour comprendre ce que ça veut dire, eh bien, vous nous emmenez cette fois-ci dans l'Indre.
Oui, parce qu'un milliardaire chinois, Monsieur Hu, épaulé par un Français qui est dans l'import-export de vin, Marc Fressange, est entré en catimini dans le grenier à blé du Berry. Il rachète d'abord 1700 hectares de céréales et il ne s'arrête pas là puisque sa holding financière est désormais présente dans le Gers, en Charente, en Normandie. On le sait aussi parce qu'un site d'investigateurs du net suit pas à pas sa progression. Et l'un d'entre eux, qui se fait appeler Draffer, nous explique comment tout ça s'est mis en place.
Alors là, pour le démarrage, c'est le rachat à 98 ou 99% des parts sociales d'une société agricole. C'est un petit consortium, voilà. Il y a 9 sociétés agricoles, on va dire, de façon générale, et une holding qui a été montée en juin, une holding parisienne, qui est donc avec, comme directeur général, le PDG de Hongyang,
Monsieur Keqing Hu.
Merci. Et en directeur, il y a le PDG de Beijing Reward International et monsieur Fressange. On peut croire que les PDG des multinationales, monsieur Marc Fressange et sa femme avocate, ont envie de jouer au gentleman farmer, c'est-à-dire de faire rentrer du grain dans des coopératives à des prix très bas, en fin de compte. Et voilà, on peut penser qu'il y a quelque chose d'autre.
C'est-à-dire une filière industrielle.
Peut-être bien une filière industrielle qui serait reliée avec, on va dire, l'agro-industrie chinoise implantée en France, qui avance beaucoup.
Autrement dit, ce monsieur Hu aurait l'intention d'utiliser la France comme grenier à blé pour la Chine, hein, c'est un peu ce que j'entends. Mais c'est qui exactement ce monsieur Hu ?
Eh bien, c'est un ancien haut gradé de l'armée chinoise. Il est devenu entrepreneur et a fait fortune dans les détergents. Ensuite, il s'est vu confier la mission d'élever 400 000 vaches laitières en Chine. J'ai pu joindre quelqu'un qui le connaît, un Français, Christophe Dequuit, de la société de conseil agricole Triangle, qu'il a rencontré à Pékin pour son livre « Le tour du monde des moissons ». Et il nous en dit plus sur le personnage.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a eu un phénomène extrêmement grave en Chine qui s'est appelé la crise de la mélamine. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans du lait infantile un composant qui a une vertu, c'est d'augmenter la protéine du lait, qui a quelque chose de dramatique, c'est-à-dire que ça fait des trous dans l'estomac. Et ils ont demandé à des gens comme Hu s'ils étaient prêts à se lancer dans le défi de créer une véritable filière laitière en Chine. Hu a été chargé, comme d'autres chefs d'entreprise, d'aller investir à l'étranger pour pouvoir produire à l'extérieur des céréales qu'il ferait revenir en Chine éventuellement.
Ah oui, donc son objectif serait bien de mettre la main sur le blé de l'Indre pour l'envoyer en Chine.
Oui, aspirer le blé ou l'orge fourragère de ce grenier. Et ça ne va peut-être pas s'arrêter là, car selon certains experts, les terres du Charolais pourraient bientôt être elles aussi convoitées. Il faut en effet savoir que l'embargo sur le bœuf français vient enfin d'être levé en Chine, longtemps après la crise de la vache folle. Or, il y a potentiellement là-bas un marché gigantesque pour notre bœuf. C'est pourquoi Benjamin Travely, un notaire bourguignon, n'exclut pas qu'on assiste bientôt à de nouveaux rachats de propriétés.
On peut imaginer que pour le bœuf, qu'effectivement l'investissement massif de pays étrangers qui auraient des besoins propres conduisent à une augmentation du prix du foncier. Ce phénomène peut effectivement se retrouver demain dans le bœuf comme il s'est trouvé hier et aujourd'hui dans le vin.
Et tout ça est cohérent. Faute de terres arables, la Chine doit bien trouver à semer ailleurs. C'est pour ça qu'elle vient d'acheter en Australie la plus grande ferme du monde, 11 millions d'hectares. Plus du tiers de notre surface agricole rachetée d'un coup.
Oui, on comprend le principe. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près ce que ça veut dire, Philippe, c'est pas un problème, ça, de s'approprier une terre pour ensuite exporter tout ce qu'on y produit ?
Eh bien, c'est ça la vraie question. Et pas parce qu'il s'agit de capitaux étrangers, mais surtout parce que cette évolution pose la question de l'accaparement d'une production au détriment de l'intérêt national d'un pays. C'est ce qui inquiète, en tous les cas, Emmanuel Yest, patron de la SAFER.
Il y a effectivement un vrai problème d'autonomie alimentaire pour un pays. On sait tous que quelqu'un qui investit, c'est qu'il cherche à en tirer un profit, et c'est pas quelque chose d'anormal. Mais son profit peut être double. Il est à la fois financier, mais il est aussi pour répondre à sa demande d'autonomie alimentaire propre. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays du monde, la Chine, hein, on peut rappeler que la Chine, c'est 9% des terres arables, 20% de la population. Donc on sait qu'il y a un delta important, que sur la planète, on aille faire son marché de matières premières, quand chacun a répondu à ses propres besoins, c'est pas un souci. Mais quand on va directement à la source chercher la matière première, au risque que le pays qu'il produit soit lui-même dans une difficulté d'alimentation, là, on n'est plus dans la même règle du jeu.
Bon, d'accord, mais si ce qu'il dit est vrai, Philippe, si notre souveraineté alimentaire peut être menacée, alors pourquoi est-ce que l'État laisse faire ?
Eh bien, d'abord, parce que tout ça est légal. On est dans une économie mondialisée et les sociétés de M. Hu en France sont toutes de droit français. Et quand bien même il voudrait agir, aujourd'hui l'État français est désarmé parce qu'il y a des failles dans notre réglementation. C'est ce que nous explique Hubert Bosplatière, professeur d'économie et de droit rural à l'Université de Bourgogne.
Lorsqu'on a un changement d'exploitant, eh bien le préfet donne une autorisation administrative d'exploiter à celui qui veut acheter éventuellement les parts sociales. Mais là, dans l'affaire chinoise, pourquoi le contrôle n'a pas pu jouer ? Parce que lorsqu'il y a une mutation des parts, en principe, il y a une demande d'autorisation qui est faite, sauf s'il s'agit d'un associé non exploitant. La société chinoise en question, elle achète des parts, mais elle ne prend pas la qualité d'associée exploitant, elle prend la qualité d'associée non exploitante. Et donc, il n'y a pas de demande d'autorisation administrative souhaitée.
Ouais, donc, en l'occurrence, le préfet ne peut rien faire. Mais il y a aussi la SAFER. Philippe, le rôle de cet organisme, c'est bien de réguler la terre agricole, non ?
Oui, réguler les prix et installer de jeunes agriculteurs. Mais elle aussi est démunie. Il est très facile de la contourner parce qu'elle ne peut bloquer une vente que si la totalité des parts d'une société change de main. Ce qui n'arrive jamais pratiquement avec des acheteurs généralement très bien conseillés, comme le souligne encore ici Hubert Bosplatière.
La dernière loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014 a ouvert un droit de préemption au profit des SAFER, mais uniquement en cas d'aliénation de la totalité des parts ou actions d'une société. Si on cède 99% des parts, sauf à prouver la fraude, la SAFER n'a pas de droit de préemption. Donc là, dans l'affaire de l'Indre, on n'a pas cédé la totalité des parts, on a dû céder 95, 98, 99%, et que la SAFER n'ait pas de droit de préemption.
Oui, sans pouvoir préempter, elle ne peut donc pas empêcher les ventes spéculatives ou des ventes qui seraient contraires à l'intérêt du pays.
C'est vrai, le droit de préemption de la SAFER, considéré jadis comme l'arme atomique du pauvre paysan, est devenu un pistolet à eau. La préemption ne représente plus aujourd'hui que 5% de son chiffre d'affaires. À tel point d'ailleurs que certains notaires, comme Benjamin Travely, se demandent si peu à peu ces missions n'ont pas dérivé.
Nous avons des retours de confrères et de collaborateurs de notaires qui nous expliquent des pratiques contestables, comme par exemple le fait d'avoir des SAFER qui sont très présentes sur le marché des maisons à la campagne, où finalement il n'y a plus d'enjeu de foncier agricole et où véritablement on a l'impression que la SAFER intervient pour prendre sa part du marché et se refinancer, autant appeler un chat un chat. Au détriment d'ailleurs parfois des collectivités publiques, hein, puisque vous l'avez compris, par le jeu de mécanismes fiscaux particuliers, la SAFER exonère l'acheteur de droits d'enregistrement et il y a une vraie perte fiscale pour le conseil départemental et la commune concernée.
Ce qui revient à dire que la SAFER est présente sur un terrain qui n'est pas vraiment le sien et absente d'un terrain où les enjeux agricoles sont pourtant autrement importants.
Oui, quand bien même elle serait plus présente sur ce terrain, Philippe, ça pose quand même une autre question. C'est que de toute façon, dans une économie mondialisée, les rachats de terres, bah ça marche dans les deux sens.
Évidemment. Si nous empêchions les investisseurs étrangers d'investir en Europe, comment pourrions-nous nous-mêmes investir à l'étranger ? Sans compter que ces filières d'exportation permettent de réduire bigrement le déficit de notre commerce extérieur. En 2012, 8 milliards d'euros de vin exportés, c'est l'équivalent de 150 rafales. Bref, interdire aux Chinois, aux Qataris, aux Anglais ou aux Américains de racheter nos terres ne serait pas la bonne réponse, affirme encore le juriste Bosplatière.
Si un investisseur d'un pays du Moyen-Orient ou ailleurs, peu importe, vient à acheter du foncier et qu'on s'assure que c'est un investissement qui vient protéger l'agriculteur...
Qui a des fins agricoles.
Qui a des fins agricoles. En soi, il n'est pas moins vertueux que l'industriel local. Mais si vous partez du principe qu'un étranger peut acheter en France des terres, à ce moment-là, il faut trouver des critères permettant de trier entre l'investissement qui est bon pour l'agriculture française et l'accaparement, si on veut utiliser des mots, qui serait mauvais pour l'agriculture française.
Oui, donc son idée à lui, si j'entends bien, ce serait de faire le tri entre les bons et les mauvais investisseurs.
Oui, et pour ça, il propose de créer un permis d'exploiter préalable, qui serait délivré ou pas, selon l'usage que le propriétaire veut faire de sa terre.
Alors ça, c'est une piste possible, mais c'est pas la seule. La FNSEA, par exemple, se demande, elle, si on ne pourrait pas actionner un autre levier.
Oui, celui des subventions européennes de la PAC, la politique agricole commune. Le syndicat propose de réserver ces subventions aux réels exploitants agricoles et non plus aux simples exécutants de grosses firmes. C'est l'idée que défend en tout cas Josiane Béliard, l'une des cadres de la FNSEA.
Nous réfléchissons avec les autres pays européens à un statut d'agriculteur qui mérite les aides européennes par rapport à des exécutants qui ne méritent pas les aides européennes. Alors, il faut réserver les aides européennes à des chefs d'entreprise qui sont des vrais agriculteurs. Et par contre, quand on voit la reine d'Angleterre qui perçoit des aides européennes, ça quand même, c'est détestable. Donc, on devrait arriver à faire partager aux autres pays européens qu'il y a un problème et que certains types d'exploitation ne méritent pas des aides européennes.
Voilà, à suivre donc. En attendant, la morale de cette histoire, c'est qu'on a aujourd'hui une situation très paradoxale, avec d'un côté des agriculteurs ou des éleveurs qui ne peuvent plus vivre de leur production parce que les prix sont trop bas, et de l'autre des exploitations rachetées à prix d'or par des investisseurs français ou étrangers qui recherchent d'abord le profit. Mais ces deux facteurs concourent au même résultat, à faire peu à peu disparaître l'agriculture familiale.
Merci Philippe Reltien pour cette enquête. Merci de nous avoir éclairé. Cette enquête, on peut la lire ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Et puis pour vos remarques, vos commentaires, bien je vous donne rendez-vous, comme chaque semaine, sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Tout autre chose, on va entendre une voix discordante, ou atypique en tout cas, dans l'affaire de l'attaque au gaz sarin qui a eu lieu le 4 avril dernier en Syrie. Vous aimez la distorsion, la reverb, le blues, alors vous avez aimé The Bear Snake, c'est un titre du suédois Bron Gunnar Johnson, enregistré en 2014, mais qui vient tout juste de sortir.
France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Alain Juillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ex-directeur du renseignement de la DGSE, aujourd'hui président de l'Académie de l'intelligence économique. Vous êtes ce qu'on appelle encore aujourd'hui un homme très bien informé. Du gaz sarin a provoqué la mort de 72 personnes en Syrie le 4 avril dernier. Jean-Marc Ayrault promet des preuves de l'implication du régime syrien, il l'a dit il y a quelques jours dans cette attaque. Les États-Unis, de leur côté, affirment qu'ils détiennent également des preuves. Mais vous, vous vous dites... prudent. Pourquoi ça ?
Parce que je pense que dans l'affaire syrienne, dans l'affaire du chimique en Syrie, depuis le début, il y a des manipulations dans tous les sens. Ce qu'on voit depuis le début, c'est que pour diaboliser Bachar, qui n'est pas pour autant un modèle de vertu, donc on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, on utilise très souvent l'histoire du chimique pour le charger en disant « c'est lui, ce sont ces hommes qui ont fait des attaques chimiques ». Or, effectivement, ils ont utilisé du chimique au départ, mais nous savons que les gens de Jamal al-Nosra, enfin les anciens d'Al-Qaïda et les gens de Daesh, ont mis la main sur des entrepôts de chimiques, obus et roquettes chimiques, dont ils sont emparés. Ça, tout le monde le sait, et il y a eu, depuis cette époque-là, il y a eu des utilisations par le régime, mais il y a eu des utilisations également par Daesh, enfin par les hommes de Daesh, contre les gens du régime. Et le plus flagrant, ça a été ce qui avait été la première grande affaire d'attaque chimique qu'on avait mis sur l'autre Bachar, vous vous souvenez, où il y avait
2013.
Eu en 2013, bon, où là, les Français, les Américains, tous ceux qui étaient contre Bachar ont lancé l'information en disant c'est un scandale, Bachar a utilisé du chimique, mais l'enquête qui a été faite et a conclu au niveau de l'ONU qu'il y avait certes du chimique, mais on ne savait pas qui l'avait utilisé. Et récemment, le MIT et Harvard, en fait, donc deux universités américaines, ont
Massachusetts
sorti...
Massachusetts Institute of Technology.
Absolument, oui, c'est vrai, vous en avez, si vous le précisez, qui est la meilleure université américaine technique, a sorti il y a quelques mois un rapport en disant...
Un peu plus, en 2014.
Ouais, ah oui, excusez-moi, plus, en 2014, mais oui, mais qui a été vraiment, qu'on l'a rediffusé, alors on l'a rediffusé il y a peu de temps, mais qui a expliqué justement que c'était pas le cas et que le chimie qui avait été utilisé comme arme par Daesh. Bon, tant qu'on n'aura pas une étude sérieuse qui aura été faite par des gens neutres, et je vais insister sur le côté neutre, on ne pourra pas savoir la vérité. Parce que la vérité, elle peut être de deux côtés.
Donc ce que vous dites oui. Alain Juillet aujourd'hui, c'est on a la certitude qu'il y a bien eu des raids aériens de la part des Syriens sur la population.
Absolument.
On a la certitude qu'il s'agit de gaz sarin.
Oui.
Mais ce que vous mettez en doute, c'est qui a utilisé ce gaz ?
Exactement. Si les Américains étaient 6 sur 2, ils auraient montré les preuves. Ils ne les ont pas montrées.
Alors les Américains parlent d'écoutes qui ont été aspirées entre des personnes au sol et les avions, qui montreraient qu'on est en train de guider ces avions pour une opération qui ressemble à une opération de largage de bombes chimiques.
Oui, mais je suis extrêmement méfiant, si vous voulez, sur ce genre de choses. Les Américains, ils n'hésitent pas à manipuler l'information. Souvenez-vous, en Irak, par rapport à Saddam Hussein, ils savent très bien utiliser tous leurs moyens pour convaincre d'une information qui n'est pas vraie. Donc, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais il y a quand même une vraie question.
Et quand Jean-Marc Ayrault dit « le renseignement français et le renseignement militaire sont en train de travailler et dans quelques jours, nous vous apporterons la preuve que le régime a bien organisé ses frappes ».
Alors là aussi, j'ai entendu comme vous les déclarations du ministre. Je suis une fois de plus très surpris. Une fois de plus très surpris parce que tout le monde sait que les Français n'ont plus de contact sur la zone. Quand on a rompu avec la Syrie, on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de contact au niveau des services. Enfin, tout le monde sait. La France a pris un parti.
Partie d'une coalition. Il y a des échanges d'informations.
Voilà. Ben, bien sûr. Oui, mais alors si le ministre annonce des informations qui vont venir d'un autre pays, est-ce qu'on est sûr que ces informations ne sont pas des informations manipulées ? Moi, je ne crois, si vous voulez, qu'à une enquête internationale neutre, c'est-à-dire avec des pays neutres qui ne sont pas belligérants sous une forme ou sous une autre. Et à ce moment-là, on verrait vraiment ce qui s'est passé.
Alors, il y a un chercheur, Olivier Lepic, de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui, sur France Info, là aussi, il y a deux jours, soutenait que pour qu'il y ait utilisation d'armes chimiques, il faut qu'il y ait un élément de dissémination, c'est-à-dire une bombe ou une roquette. Donc, il aurait fallu qu'on attende que les avions survolent la zone pour balancer une roquette ou pour faire exploser une bombe. Enfin, la concomitance des deux paraît invraisemblable. Lui paraît invraisemblable. Il en conclut donc qu'il est fort vraisemblable que ce sont les avions qui ont largué les bombes.
Mais moi, je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Je dis c'est possible. Mais il est parfaitement possible aussi que ce soit autre chose, si vous voulez. Il ne faut pas oublier quand même que les gens de Daesh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie humaine compte pas beaucoup pour eux. Ce sont des gens qui sont parfaitement capables de gazer un quartier pour le simple but, si vous voulez, de convaincre l'opinion internationale qu'ils ont été attaqués. Or, faire sauter une bombe avec un pain de plastique, une bombe qui est chargée de chimique, c'est possible pour n'importe qui, qui détient la bombe et qui détient un explosif pour la faire sauter.
Alain Juillet, comment vous expliquez qu'aussi peu de gens tiennent les propos que vous tenez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on a un camp qui est plutôt le camp occidental, qui se présente comme celui de la démocratie, qui affirme c'est Bachar el-Assad, et de l'autre, un autre camp qu'on présente comme celui de la dictature, comme étant ceux qui réfutent cette thèse-là. Et entre les deux, il n'y a pas de place.
Il n'y a pas de place parce qu'on est dans une forme de terrorisme intellectuel qui fait que Bachar est un affreux, un monstre et tout.
Ce n'est pas faux.
Non, mais attendez, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est... comprenne bien. Moi, je ne vous dépends pas Bachar el-Assad, qu'on soit bien d'accord. Il a commis des choses épouvantables, c'est un dictateur. Mais au-delà de ça, Vouloir faire Star Wars, l'empire du bien, l'empire du mal, avec le monstre, avec Darth Vader, Bachar, et puis les autres qui sont tout blancs, c'est une absurdité quand on connaît le problème local.
Alors, vous évoquiez Daesh, on a vu encore cette semaine que la menace terroriste est très forte en France. Pour autant, peut-on tout autoriser ? Je m'explique. En juillet dernier, la loi renseignement prévoyait de mettre sous surveillance en France toute personne susceptible de constituer une menace. Bon, on comprend. On y a ajouté depuis, y compris son entourage, donc on élargit le cercle qu'on peut placer sous surveillance permanente, mais la délégation parlementaire du renseignement a demandé au début du mois là, à ce qu'on puisse aujourd'hui surveiller en temps réel toute personne à partir du moment où les services de renseignement le jugeraient utile, c'est-à-dire sans même avoir à justifier d'une menace. Est-ce qu'on va pas trop loin dans la demande qui est faite par ces parlementaires ?
Il faut faire très attention de ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire que nous sommes en démocratie. Et la force d'un pays comme le nôtre, c'est de rester en démocratie. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis quand, après le 11 septembre. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, George Bush en a profité, il faut bien dire, pour durcir les lois américaines à un point incroyable, puisque tout citoyen américain pouvait être écouté sur simple suspicion d'avoir des liens éventuels avec le terrorisme. Le nouveau président vient de sortir des instructions disant que dorénavant, vous savez que tout étranger qui arrivera sur le territoire américain devra donner au passage en douane son mot de passe, les moteurs de recherche sur lesquels il travaille, son indicatif Facebook, enfin bref, ses numéros de téléphone. Donc ça veut dire que dès que vous rentrerez aux États-Unis, vous serez passé à la NSA qui pourra vous contrôler. Sur le plan de la liberté individuelle, ça pose quand même quelques problèmes.
Voilà, donc risque de dérive possible avec ce genre de mesure qui, précisons-le, pour l'instant n'a pas été prise.
Non, je crois que c'est une proposition, mais attention, il faut, et ça c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle de l'État, de faire très attention, d'éviter toute dérive.
Merci Alain Juillet, merci d'avoir été l'invité de Secret d'Info.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci à Léa Dupouy-Hennequin qui m'a aidé à la préparer. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. À la technique, il y avait Stéphane Boja et Nicolas Slimani avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, dans CO2, mon amour, Denis Chessou va vous parler d'aigle et de loup. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.